Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 15. On a vu précédemment avec quelle manifestation sympathique la population de Paris avait accompagné, dans le faubourg Saint-Honoré, les volontaires que le général de Lafayette emmenait avec lui en Amérique et qu'il se proposait d'enrégimenter dans sa fameuse brigade de riflemen. Cette brigade d'élite, forte d'environ 2000 hommes, avait été formée par le général français dès l'année 1777, c'est-à-dire quand, pour la première fois, Lafayette était allé mettre son épée, son courage et sa jeunesse bouillante au service de la jeune Amérique qui voulait secouer le joug de la Grande-Bretagne. Ce petit corps de riflemen, composé de Français de la métropole et de créoles des Antilles, avait pris part à toutes les batailles et combats dont Rhode Island, le Massachusetts et la Virginie avaient été le théâtre depuis le commencement de cette guerre formidable pendant laquelle des troupes levées à la hâte et de simples volontaires, neufs dans le métier des armes, tenaient tête avec des alternatives de succès et d'échecs aux armées régulières et aux escadres anglaises. On avait choisi pour désigner cette brigade le mot anglais « riflemen » pour rendre un hommage mérité aux rares Américains qui en faisaient partie et avaient été choisis parmi les meilleurs tireurs. L'arrivée des riflemen sur les champs de bataille était le plus souvent le signal de la débandade de l'ennemi dans les rangs duquel, au moyen de leurs carabines dites « rifles », ils faisaient des brèches énormes. Mais après tant d'actions d'éclat, la petite brigade, se trouvant affaiblie par les pertes successives, le général marquis de Lafayette avait songé à lui amener des recrues de France, choisies pour la plupart parmi les anciens soldats qui avaient conservé la haine de l'anglais, et les jeunes gens désireux de se mesurer avec l'ennemi héréditaire de la France. Aussi, lorsque las d'attendre que le roi autorisa l'embarquement des troupes qu'il avait consenti à envoyer au secours de Washington, le général de Lafayette se décida à devancer ce consentement. Il s'arrangea pour se faire accompagner par les quelques centaines d'hommes que nous avons vus défiler dans le faubourg Saint-Honoré sous le commandement de quelques jeunes officiers dont faisait partie le chevalier de Vaudrey. Très populaire, le général Lafayette, qui, à peine âgé de 26 ans, avait déjà gagné des batailles, fut acclamé sur tout le parcours jusqu'à ce qu'il eût dépassé les portes de la ville. Tout fier des acclamations dont il avait été l'objet, il prit avec ses officiers la tête du détachement. « Ces braves gens, dit-il, nous ont fêtés comme si déjà nous revenions victorieux. Quels enthousiastes que les Parisiens! On les mènerait au bout du monde avec un chant patriotique. » Seul, Roger de Vaudrey, parmi ces jeunes insouciants qui partaient pour la guerre comme on se met en route pour la chasse, ne prenait pas part à la gaieté générale. Il avait mis son cheval au pas, absorbé qu'il était dans ses réflexions, et s'était peu à peu si bien isolé au milieu de cette troupe bruyante qu'il n'entendait et ne voyait rien. Aussi, lorsqu'ayant poussé sa monture tout contre celle de Roger, le général de Lafayette eut crié à ses officiers bouillants d'ardeur. « Je suis fier, messieurs, de commander à des hommes tels que vous. » Le chevalier sursauta sur sa selle comme s'il se fût réveillé d'une longue somnolence. « Quoi donc, chevalier ? » lui dit en riant le général. « Vous avez failli vider les arçons, ce me semble. Si pareille chose vous arrivait dans les plaines de l'Amérique, vous n'auriez plus qu'à recommander votre âme à Dieu. Car le tomahawk d'un Sioux vous aurait bien vite atteint avant que vous ayez le temps de vous reconnaître. » Roger essaya de sourire. Et comme les autres officiers avaient rejoint le chef et l'entouraient, Lafayette voulut profiter de la circonstance pour leur parler de la façon dont se faisait la guerre dans le Nouveau Monde. « Figurez-vous bien, messieurs, dit-il, que vous allez avoir à combattre des armées régulières, un peu à la façon des insurgés. Aux masses, qui avancent mathématiquement, nous devrons opposer la rapidité des mouvements. C'est une guerre d'embuscades, d'embûches tendues, de finesse surtout, car il s'agit le plus souvent de tromper l'ennemi par des feintes comme en ont les Indiens. Aussi, les généraux américains ont-ils accepté pour allier les tribus amies et s'en servent-ils comme éclaireurs, pour flairer l'ennemi à de grandes distances et faire des diversions en temps utile. Du reste, messieurs, ajouta Lafayette, comme nous avons encore pas mal d'étapes à fournir avant d'arriver au port d'embarquement, je me propose de vous faire chaque jour un petit cours traitant de l'art militaire dans le Nouveau Monde, ou, si vous l'aimez mieux, de l'art de battre les armées de Sa Majesté Georges III avec de simples milices entraînées au combat pour la conquête de la liberté. Et chaque jour, ainsi qu'il l'avait annoncé, le jeune marquis de Lafayette faisait une conférence à laquelle ses compagnons prenaient un intérêt extrême. Il en fut ainsi jusqu'à ce que l'on fût arrivé à Rochefort, le général ayant frété à ses frais une petite escadre de transport qui attendait à l'ancre, à l'île d'Aix, l'arrivée de la colonne qu'elle devait embarquer. On sait que ce premier détachement allait précéder de 2 mois le corps d'armée, 6 000 hommes environ, que le roi de France avait promis au général Washington. À l'exception du général et de 2 ou 3 anciens soldats, tous ces hommes allaient pour la première fois traverser la mer. Aussi étaient-ils, dès leur arrivée à bord des frégates de transport, l'objet des quolibets des marins. Il y avait parmi les équipages quelques types de vieux loups de mer qui se proposaient de se divertir à leur manière aux dépens des jeunes gens qui, selon l'expression consacrée parmi les marins, n'avaient jamais marché que sur le plancher des vaches. Lafayette employa la première journée, après son arrivée à Rochefort, à faire embarquer une cargaison de fusils, de sabres et de munitions qu'il destinait aux troupes françaises, à peu près dépourvues de tout ce qui est nécessaire en campagne. La seconde journée fut entièrement consacrée à l'embarquement des vivres, consistant pour la plus grande part en biscuits et salaisons. Cette partie de la cargaison qui devait emporter la petite escadre était bien la plus importante. Lafayette savait par expérience combien était difficile le ravitaillement des troupes qui avaient à fournir des marches forcées pendant des semaines entières à travers des forêts inextricables ou des plaines immenses. Le troisième jour eut lieu l'embarquement des hommes. La troupe comptait en tout 600 hommes, dont une centaine au plus de cavaliers. Nous avons dit que le général de Lafayette avait frété à ses frais les bâtiments composant son escadre de transport. Pour les 600 passagers et les 100 chevaux, il n'avait pu réunir qu'une flottille à peine suffisante, composée de 2 grosses frégates désarmées depuis des années et qui ne promettaient pas d'être de fameux marcheurs, une galiote hollandaise et 3 corvettes suédoises qui se trouvaient sans chargement depuis des mois dans le port de Lorient et dont les capitaines avaient consenti à transporter les soldats de Lafayette, à condition que le marquis leur garantirait la valeur des navires en cas de naufrage ou autre dommage. Les 6 bâtiments étaient armés en tout de 20 mauvais canons. M. de Vergen avait bien tenté d'obtenir que la flottille, qui allait prendre la mer, serait convoyée par quelques navires de guerre, prêts à accepter le combat avec les escadres anglaises qui tenaient l'Atlantique, guettant le passage des transports français se rendant en Amérique. Mais quelle que fût l'éloquence déployée par lui en faveur de son protégé, Louis XVI ne voulut pas entendre parler d'exposer même un vaisseau de 50 canons. Force fut donc au général de se contenter de 2 petits briques de 20 canons, d'un lougre armé en corsaire et de 2 cutters très fins voiliers, lesquels devaient précéder la flottille et éclairer la marche des lourds transports. Dans leur ignorance des choses de la marine, les Parisiens s'étaient embarqués sans se douter des dangers qu'ils allaient courir pendant cette traversée dont il était impossible de prévoir la durée. On avait réparti un certain nombre d'officiers à bord de chaque navire transport. Quant à l'état-major du général, dont le chevalier de Vaudrey faisait partie, il avait, ainsi que le marquis de Lafayette, pris passage à bord du lougre, dont le rôle allait, pendant la traversée, consister à se porter, tantôt en avant, tantôt sur les côtés, quelquefois à l'arrière-garde de l'escadrille, afin de faire la police et veiller à la sécurité de chaque bâtiment. Ce lougre était commandé par un capitaine de frégate qui, pendant les guerres précédentes, avait donné la chasse aux navires anglais qu'il rencontrait isolés. On citait de lui nombre de manœuvres habiles et d'actions belliqueuses qui lui avaient acquis la réputation d'un marin consommé et le plaçaient au rang de ces officiers hardis et expérimentés, dignes émules des Jean Bart et des Duguay-Trouin. Monsieur de Virelet, c'était le nom du commandant du lougre le foudroyant, était un homme de 50 ans, sévère dans le service, emporté jusqu'à la violence dans la discussion, mais retrouvant le calme et le sang-froid le plus absolu au moment de l'action. Il avait, pour ce voyage, choisi son équipage parmi les matelots et sous-officiers ayant déjà servi sous ses ordres et dont il connaissait les aptitudes et l'expérience. Pas un de ces hommes qui n'eût consenti, s'il le leur eût commandé, à s'attaquer au plus redoutable vaisseau des escadres anglaises et à monter à l'abordage, résolument, même avec la certitude d'être tué jusqu'au dernier. Lafayette connaissait de réputation ce marin, et en prenant passage à son bord, il voulut tout de suite lui présenter ses officiers. M. de Virlay se laissa nommer l'un après l'autre les militaires dont on lui déclinait les titres et les grades. Quand ce fut au tour de Roger de Vaudrey d'être présenté, « Voici monsieur le chevalier de Vaudrey, » dit Lafayette s'adressant au commandant du Lougre. « Son grade ?» demanda M. de Virlay. Roger se chargea de répondre. « Je compte les gagner tous sur les champs de bataille, » prononça-t-il d'une voix forte. « En attendant, » ajouta le marquis de Lafayette, « je l'ai attaché à ma personne en qualité d'officier d'ordonnance. » Roger s'inclina. « Vous n'avez donc jamais servi ?» demanda M. de Virlay. « Pas encore, monsieur le commandant, » répondit le chevalier, quelque peu interloqué par le ton presque ironique dont le marin avait prononcé ces mots. Il hésita un instant, puis relevant fièrement la tête, « Tout gentilhomme ayant le droit de porter l'épée a le devoir de la mettre au service de son pays lorsque l'occasion se présente de le faire. Et je suis gentilhomme, monsieur. »« Voilà qui est bien parlé, monsieur, » répliqua le commandant. « Plaise à Dieu que la guerre d'Amérique vous fournisse bientôt l'occasion de donner des preuves éclatantes de ce courage que je lis dans vos yeux et de cette énergie que je devine en vous. » « C'est que M. de Virlay est bon connaisseur en matière de courage et de résolution, » fit en riant le général de Lafayette. « Et si j'en parle, c'est que je suis déjà pour le commandant une vieille connaissance. »« Oui, » répondit M. de Virlay, visiblement satisfait. « C'est à bord de la corvette que je commandais alors qu'en 1777 vous avez pris passage. Je n'avais pas encore le pied marin, comme à présent. » Au moment où le général prononçait ces paroles, le lougre, qui avait mis à la voile, pencha tout à coup sur le côté, ce qui produisit un tel remue-ménage parmi les officiers qui entouraient le commandant, qu'ils glissèrent s'entrechoquant les uns les autres. Et le général de Lafayette, tout le premier, faillit tomber à la renverse. « Voilà ce que vous appelez avoir le pied marin, » dit en éclatant de rire M. de Virlay. « Heureusement, mon général, que vous êtes autrement solide sur les champs de bataille. » L'équipage, réuni en partie sur le gaillard d'avant, riait sous cap de la petite scène comique qui venait de se passer. Un coup d'œil du commandant les rappela au respect dû à des officiers. Puis M. de Virlay s'adressant aux militaires. « Notre petit bâtiment a de ces coquetteries-là. Voyez-vous, messieurs, c'est sa façon d'entrer en danse, comme nous disons nous autres marins. Il se couche un peu, mais c'est pour mieux glisser. C'est que mon petit foudroyant n'a pas son pareil pour fendre la lame. On dirait d'une jolie mouette qui effleure la vague de son aile. Et puis, mon petit foudroyant n'a pas reçu en baptême son nom pour rien. Il l'a déjà justifié, et son parrain, l'amiral, peut être fier de lui. Avec ses quatre pièces, que voici, mon joli lougre se chargerait au besoin de tenir tête à un vaisseau à trois ponts. « J'espère, » fit en souriant le général, « que nous n'aurons pas l'occasion de juger la chose, commandant. Qui sait, par ce temps de chasse effréné que nous donne l'anglais, quand il se croit le plus fort, s'entend, nous pouvons d'un moment à l'autre tomber en pleine escadre ennemie. Et que feriez-vous en pareil cas ? Hasarda le chevalier de Vaudrey, que cette conversation commençait à intéresser singulièrement. « Parbleu ! » s'exclama Lafayette, « la chose n'est pas douteuse. Le commandant ne sait-il pas que son devoir est de convoyer mes transports et d'éviter autant que possible que nous entrions en contact avec l'ennemi, sur mer du moins. » Le visage du commandant s'était subitement rembruni. « C'est sur la terre américaine, » continua le marquis, « que nous devrons battre l'anglais. Certes, aucune action d'éclat n'est à dédaigner. Je serai le premier à vouloir constater la supériorité du foudroyant sur le navire anglais qui s'attaquerait au lougre de M. de Virlay. Mais cette action isolée, quelque glorieuse qu'elle pût être, n'avancerait pas de beaucoup l'indépendance américaine. En outre, poursuivit le général, la victoire pourrait échapper aux braves marins que voici, malgré toute la valeur que leur brillant capitaine et eux pourraient déployer. Alors, qu'arriverait-il? C'est que les 600 soldats que je mène au général Washington périraient sans profit pour la cause au triomphe de laquelle ils ont l'espoir de participer bientôt. Monsieur de Virlay, avons-nous dit, ne supportait pas la discussion avec tout le calme désirable. Pendant tout le temps que Lafayette avait parlé, il s'était mordillé les lèvres jusqu'au sang. Mais n'y tenant plus, il interrompit le général par ces mots prononcés d'une voix forte et avec une extrême véhémence. « Tout cela est fort bien, monsieur le marquis. Mais j'ai un compte, et un fameux, à régler avec cette grosse frégate de Sa Majesté Georges III. Et ces comptes-là, nous n'aimons pas à les laisser moisir, nous autres marins français. Chacun s'était rapproché, comprenant à l'air du commandant que celui-ci allait faire quelques récits intéressants. Cette frégate s'appelait l'Arrogante, et sur ma parole de marin, je jure bien que je ferai rentrer son arrogance sous l'eau dès que j'en trouverai l'occasion. Si maintenant vous voulez savoir quel terrible compte j'ai à régler avec la frégate anglaise, sachez, monsieur le marquis, que c'est pendant un combat que ma corvette la Désirée livrait avec supériorité à deux brick anglais que tout à coup, au plus fort de l'action, alors que l'un des briques coulait à pic et que j'allais prendre l'autre à l'abordage, que soudain la frégate l'Arrogante parut à l'horizon. La vigie me la signala aussitôt. Je vis le danger, mais résolu à en finir avec le brick à moitié désemparé, j'ordonnai de lancer sur ses plats-bords les grappins d'abordage. Et pour exciter mes hommes, connaissant les gaillards que j'avais avec moi, « Courage, mes amis, m'écriai-je. Il y a là-bas un gros Anglais qui a mis le cap sur nous. Il se promet de nous envoyer toute une récolte de pruneaux quand il sera à portée. C'est à vous de lui faire la nique. Hardi, les enfants, sabrez, canardez, hachez-moi tous ces godems-là, avant qu'on ne puisse se dégager. Hardi, les petits, à l'abordage !» Ah, il fallait voir comme tous ces matelots et soldats de marine vous sautaient dans les bastingages du brick. Il fallait voir comme ils hachaient, canardaient et sabraient. Pour un des leurs qui tombait, ils en abattaient cinq. C'était la victoire rapide, complète, magnifique. Le brick sabordé coula lentement. Sur son pont, le combat devenait de plus en plus furieux. J'avais la certitude d'emmener le capitaine anglais prisonnier. Déjà, je m'élançais pour recevoir son épée, quand un coup de canon retentit partant de la frégate. Le boulet arriva en plein dans la mâture de la Désirée. « Tonnerre ! M'écriai-je. Aux pièces ! Aux pièces !» Mais avant que les canonniers eussent pu charger leurs pièces, la frégate anglaise nous envoyait toutes s'aborder. M. de Virlay s'interrompit pendant une seconde pour essuyer la sueur qui inondait son front. Puis il reprit en s'animant de plus en plus et d'une voix rude, hachée, saccadée. Sous cette pluie de fer, la corvette sembla trembler dans l'immense jaillissement d'eau qui se fit autour d'elle. Une seconde bordée suivit. Nous y répondions. Mais les servants manquaient aux pièces. Les munitions avaient été en grande partie épuisées à couler l'un des Anglais, à désemparer l'autre. J'avais réussi à lutter seul contre deux et à vaincre. Et c'était au milieu de cette victoire, dans l'enthousiasme de ce succès digne de figurer dans nos annales maritimes, c'est alors que l'équipage poussait des cris de triomphe. C'est à ce moment où le pavillon anglais était déjà amené que nous allions succomber. Ah, du moins je ne voulus pas que ma chère corvette fût amarinée et figura piteuse, enchaînée à l'arrière de la frégate ennemie. Non. Et réunissant mes hommes, il faut couler, n'est-ce pas, vous autres? Un formidable cri d'assentiment retentit de la proue à la poupe de la Désirée. Tous ces hommes acceptaient de mourir plutôt que de devenir prisonniers. Alors, réclamant le silence, je donnai l'ordre de mettre à la mer les deux chaloupes à voile. La nuit arrivait rapidement. Nous avions encore la chance d'échapper grâce aux ténèbres. Je fis embarquer tous mes hommes dans les chaloupes, armés chacune d'un pierrier à l'avant. Et quand ce fut mon tour d'abandonner mon navire, je me jetai à genoux et j'embrassai le pont de ma chère corvette, qui s'abordait, s'engouffrait dans les flots. Ah, tenez, messieurs, vous paraissez émus, eh bien moi, à ce moment-là, j'ai pleuré comme un enfant. Monsieur de Virlay passa vivement le revers de sa main sur ses yeux, et poursuivant son récit. La nuit nous fut favorable. Les deux chaloupes purent échapper à la frégate. Après deux jours de navigation, mes hommes et moi nous fûmes recueillis par un vaisseau français qui se rendait aux Antilles. Monsieur de Virlay se tut. Une grande sensation se manifesta parmi les assistants. Tous se découvrirent. Quelques-uns se pressaient autour du marin pour lui serrer les mains. Lafayette était visiblement ému. « C'est donc en revenant de Boston, où vous m'aviez débarqué, que l'événement que vous venez de nous narrer eut lieu » demanda-t-il. « Oui, monsieur le marquis, et vous êtes le dernier passager qu'ait vu la Désirée à son bord. » Puis s'interrompant. « Vous savez maintenant, général ? » s'exclama-t-il avec force. « Vous savez quel terrible compte j'aurais à régler avec la frégate l'Arrogante le jour où je la rencontrerai. » « Eh bien, foi de marin, vous pouvez être certain, général, que si le hasard voulait mettre mon lougre dans les eaux de cette frégate maudite, je ne me laisserai convaincre par aucun raisonnement. Aucune considération ne m'arrêterait. Je mettrai le cap sur l'ennemi. » « Heureusement, interrompit le général de Lafayette, que vous ne comptez que sur le hasard pour mettre votre joli lougre dans les eaux de la frégate anglaise l'Arrogante. J'espère pour ma part que ce ne sera pas pendant ce voyage, qui commence sous les meilleurs auspices, commandant de Virlay, car il me semble que le vent nous est tout à fait favorable, et le foudroyant tangue fièrement sur la lame. » Lafayette avait par cette phrase voulu détourner son interlocuteur du précédent sujet de conversation. Ainsi que l'avait dit Lafayette, le voyage débutait bien. Après quelques jours de traversée, les passagers du Louvre purent apprécier la supériorité de la marche du petit bâtiment. M. de Virlay ordonnait et faisait exécuter les plus habiles manœuvres. Le foudroyant se chargeait bien réellement de la police de l'escadrille, ralliant les transports qui s'écartaient par trop de la route tracée d'avance, tirant des bordées tantôt à droite, tantôt à gauche, à de grandes distances, pour s'assurer qu'aucun navire ennemi ne se trouvait à portée de canon. Puis on voyait le lougre faire tout à coup force de voile pour rejoindre les deux cutters d'avant-garde et naviguer pendant quelque temps de conserve avec eux. Ces deux légers bâtiments étaient montés chacun par 30 hommes d'équipage sous le commandement d'officiers déterminés. Les deux capitaines étaient des hommes de la trempe de M. de Virlay. Aussi, le capitaine du foudroyant aimait-il à causer avec ses deux collègues de préférence, négligeant quelque peu les commandants des briques, lesquels, de promotion plus récente, ne se trouvaient pas, selon lui, dans des conditions d'expérience suffisantes. C'était le premier voyage que ces officiers faisaient en Amérique depuis le commencement des hostilités. Et M. de Virlay, en causant avec ses amis, les capitaines des cutters, s'ouvrait à eux du peu de service que pourraient rendre les briques, mal armés comme ils étaient, et aussi mollement commandés. « C'est surtout sur vous deux que je compte, mes amis, » ajoutait-il, « si nous avons la chance de rencontrer les Anglais. »« Et vous pouvez croire, commandant, » répondaient les deux marins, « que nous sommes tous à bord complètement prêts pour l'abordage. »« Oui, l'abordage, mes amis, il n'y a que cela. » »« Et dans ce cas, » répliqua M. de Virlay en s'adressant aux officiers du général de Lafayette, quand ceux-ci venaient se mêler à la conversation. « Dans ce cas, nous compterons sur vous aussi, messieurs, car avec l'abordage, c'est le combat comme sur terre. » Un jour, que le chevalier de Vaudrey se trouvait parmi les officiers assis sur la dunette, en compagnie des capitaines des cutters, qui, profitant de ce que le vent était tombé, étaient montés à bord du lougre, M. de Virlay dit tout à coup à Roger. « Figurez-vous, chevalier, que j'ai un pressentiment qui s'acharne en moi. » « Un bon pressentiment, sans doute, » fit M. de Vaudrey quelque peu impressionné. « Excellent, à mon point de vue. Faites-nous en part, commandant, si toutefois il n'y a pas d'indiscrétion à vous le demander. Pas la moindre, chevalier, d'autant plus qu'il s'agit de vous. De moi ? Ah, vraiment, vous allez exciter ma curiosité, commandant. Voyons le pressentiment en question, » fit le général de Lafayette intervenant. « Eh bien, messieurs, » commença M. de Virlay, j'ai le pressentiment que le chevalier de Vaudrey ferait ses premières armes à bord de ce lougre. « Ce n'est pas vraisemblable, » ricana Lafayette. « Vraisemblable ou non, on ne me sortira pas de la tête que monsieur de Vaudrey débutera du même coup dans la carrière militaire et dans la carrière maritime. Quoi qu'il arrive, commandant, vous me verrez toujours prêt à accomplir mon devoir. » Et il était prêt en effet. Sa détermination était prise depuis le jour où, s'étant présenté devant le général Lafayette, pour obtenir un grade dans un petit corps expéditionnaire, celui-ci s'était contenté de lui dire « Vous savez, chevalier, à quel danger vous allez vous exposer ? Je sais, général, que je serai heureux de combattre sous vos ordres. » L'air résolu de Roger avait favorablement impressionné le jeune général, si énergique lui-même. « Pour la campagne que nous menons là-bas, chevalier, » reprit-il, « il nous faut des hommes décidés à supporter de rudes fatigues, à exécuter des marches forcées dans des contrées où l'on doit s'attendre à rencontrer, à l'improviste, l'ennemi, soit qu'il se présente en armée régulière, comme les Anglais, soit que, comme les Indiens, il apparaisse subitement comme une volée d'oiseaux de proie qui se lèverait du milieu des grandes herbes ou s'élancerait du fond des forêts vierges. » Roger n'avait pas paru le moins du monde ébranlé par le tableau saisissant que lui faisait le général. Celui-ci continua. « C'est une véritable guerre d'extermination que nous avons entreprise là, et qui devra s'achever par le triomphe définitif de la cause si juste pour laquelle les Américains luttent depuis des années avec une persévérance, un courage et une volonté inébranlables. » Et s'enthousiasmant au souvenir des glorieux combats auxquels il avait assisté déjà, Lafayette s'exclama. « Quand vous aurez vu à quels hommes énergiques je me suis allié, quand vous connaîtrez l'illustre Washington, quand vous aurez compris, chevalier, combien est grand cet homme qui, débutant dans l'insurrection, avec une poignée de soldats mal vêtus, mal équipés, est parvenu à créer des bataillons capables de résister aux plus solides armées, à former des généraux qui, la veille encore, étaient de simples planteurs, des marchands ou des maîtres d'école, à faire exécuter des prodiges à des colons naguère encore tenus sous le joug de la Grande-Bretagne et qu'il a su exalter en leur prêchant la guerre sainte pour l'indépendance et la liberté. Alors, chevalier, vous comprendrez que je me sois décidé à braver la colère du roi, que j'ai mis de côté toute considération de famille et que je me sois, pour ainsi dire, échappé de France pour aller retrouver le libérateur de l'Amérique sur les champs de bataille du Nouveau Monde. » Et Lafayette poursuivit. « Je vous ai dit, chevalier, que c'était une guerre d'extermination. C'est donc à nous de faire tous nos efforts pour ne pas être les exterminés. La chose n'est pas aussi facile qu'on pourrait le supposer en France. » En parlant ainsi, le général faisait allusion à quelques critiques qu'on ne manquait pas de faire à la cour de Louis XVI sur cette guerre lointaine. D'aucuns parmi les plus mauvais conseillers du roi de France ne se gênaient pas, bien que n'étant que des militaires sans valeur, pour traiter assez cavalièrement les généraux américains. À les entendre, Washington n'était qu'une façon de flibustier, plus courageux, plus énergique, plus habile peut-être que d'autres. Mais en somme, ce n'était, affirmait-il, qu'un révolté. C'est grâce au conseil de ces personnages que les efforts de M. de Vergennes étaient demeurés si longtemps impuissants à décider le roi de France à reconnaître les Américains comme belligérants. La guerre de l'indépendance, au début, était considérée comme une simple insurrection dont les généraux de Sa Majesté britannique auraient rapidement raison. Le vieux monde était encore sous le régime de la royauté absolue et ne pouvait admettre que les populations cherchassent à se gouverner à leur guise. On ne reconnaissait pas aux colons qui avaient fait de l'Amérique ce qu'elle était déjà et dont le génie de colonisation procurait de si grandes ressources à la métropole de vouloir enfin s'affranchir et devenir une nation indépendante et libre. Ceux qui parlaient avec cette désinvolture des prétentions des colons américains ne manquaient pas de pronostiquer une succession de revers devant fatalement aboutir à une dernière catastrophe qui replacerait, plus soumise que jamais, les provinces insurgées sous le joug de fer de la Grande-Bretagne. Il rappelait au roi Louis XVI, disposé du reste à les écouter, que les hommes de guerre et les hommes d'État anglais avaient donné de si grandes preuves de leur supériorité qu'il était de la dernière évidence qu'ils sortiraient victorieux de cette lutte qu'ils qualifiaient d'absolument inégale. Mais ce qu'ils oubliaient de dire, ou qu'ils ignoraient, c'est que depuis les époques glorieuses, la Grande-Bretagne avait envoyé dans sa colonie américaine des généraux tellement incapables qu'il en était résulté pour la puissance anglaise de véritables désastres. C'est ainsi qu'on avait eu le spectacle d'une brillante armée récemment débarquée en Amérique, battue et mise en déroute complète par quelques poignées de Français et d'Indiens. Ces derniers, travaillant pour leur compte, avaient fait alliance avec nos compatriotes. C'était bien l'alliance des intérêts, car les tribus sauvages, au moment de l'action, en venaient aux mains avec les tribus ennemies qui avaient embrassé la cause des Anglais. C'est à cette guerre de peau rouge que Lafayette faisait allusion lorsqu'il déclarait aux chevaliers de Vaudrey qu'il fallait s'attendre à courir les plus grands dangers quand on se décidait à aller guerroyer dans le Nouveau Monde. Les Indiens étaient en effet d'impitoyables ennemis qui, ne faisant jamais quartier, se livraient sur les vaincus à d'horribles cruautés. Dans sa conversation avec le chevalier, Lafayette lui raconta toutes les difficultés qu'il avait dû surmonter lorsque pour la première fois il était allé offrir son épée au général Washington. Il avait, paraît-il, dès qu'on eut appris le rôle qu'il se proposait de jouer, excité la jalousie des généraux américains qui le tinrent tout d'abord à distance. Le jeune et ardent marquis ne se laissa pas démonter par ses premiers déboires. Il se fit modeste, exalta les faits d'armes des Américains et parvint à force de diplomatie, de patience et de tact à obtenir de Washington un commandement. Après les premiers succès, le grand Américain avait rejeté les perfides conseils et accepté franchement et loyalement le concours du brillant militaire français. « Je suis à mon troisième voyage », avait conclu Lafayette en serrant la main du chevalier, « et j'espère bien cette fois ne plus quitter l'Amérique qu'au jour où le drapeau de l'Union flottera depuis le Canada jusqu'aux confins de la Caroline. Quand Washington aura proclamé l'indépendance des États si riches qui s'étendent du lac Ontario à l'océan Atlantique et que les puissances européennes auront accepté le fait accompli. »